Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce rétro-tag spécial Kimagure Orange Road, j'ai le plaisir d'accueillir comme invité Olivier Fallet, ancien journaliste, rédacteur en chef du magazine Animeland et actuellement aujourd'hui consultant pour la plateforme de simulcast Crunchyroll. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Au cours de cette émission, nous allons aborder avec Olivier le manga et l'adaptation animée de Kimagure Orange Road, plus connue par chez nous sous le nom de Max et compagnie.
Take me to
Bien pour commencer, Olivier, que peut-on dire à propos d'Izumi Matsumoto, l'auteur du manga Kimagure Orange Road ?
Eh bien, c'est son grand titre, parce que c'est quelqu'un qui a, comme beaucoup d'auteurs, qui a commencé, qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Alors, c'est le magazine qui a vu naître Dragon Ball, Saint Seiya. Bon, ça peut paraître bizarre, mais oui, Orange Road était bien publié dans ce magazine-là.
One Piece récemment, Naruto, tout ça.
Voilà. Et à l'époque, il y avait aussi, il y en a peut-être encore maintenant, mais il y avait aussi des comédies romantiques pour garçons, puisque c'est aussi dans le Jump qu'on pouvait lire Video Girl Eye, oui. Et Orange Road faisait partie de ce genre de titre. Et voilà, l'auteur a commencé comme beaucoup d'autres en faisant des petites histoires courtes, mais rapidement, il est arrivé sur Orange Road, qui est resté sa grande série phare et qui a été publiée au milieu des années 80. Je crois que c'est 1984, la première publication, le début du manga au Japon.
C'est ça, 1984. Et d'ailleurs, justement, il a commencé en 1980 avec sa première histoire courte qui s'intitule Live Totemo Rock'n'Roll. Je ne sais pas si tu connais ce titre.
Moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de lire autre chose qu'Orange Road, à vrai dire.
Est-ce que tu as pu le rencontrer parce qu'il est venu en 2012 à Japan Expo.
Alors non, je ne l'ai pas rencontré en 2012. J'essaie de me souvenir 2012, où j'étais encore à Animeland, mais j'avais envoyé quelqu'un d'autre. Ça devait être, je pense, Nicolas Penedo, qui était en charge de la partie manga sur Animeland. Ou peut-être que c'était quelqu'un d'autre, je ne sais plus, parce que Japan Expo, on était toute une armada pour couvrir les nombreux invités. Donc non, moi j'ai pas eu cette chance. Moi j'ai rencontré, on en parlera après, la Kara designer Akimi Takada, mais pas l'auteur. Et pour revenir un petit peu sur ses problèmes de santé, effectivement, déjà être mangaka, c'est quelque chose de très éprouvant, surtout dans les années 80 et encore aujourd'hui, puisqu'il faut fournir une trentaine de pages par semaine, on s'arrête jamais, on n'a pas vraiment le temps de faire de pause, surtout quand on a un manga qui a du succès et qui continue sur plusieurs années, ce qui a été le cas d'Orange Road. Donc là, c'est déjà quelque chose qui en a usé plus d'un. Et forcément, Izumi Matsumoto, ça ne l'a pas aidé. Mais oui, c'est quelqu'un qui avait aussi la santé fragile. Alors, je crois qu'il a eu un accident quand il était tout jeune.
Quand il était tout jeune, oui, tout à fait.
Voilà, et ça a priori fragilisé sa santé. Et effectivement, ben, comme je le disais, le travail harassant et très intensif de l'auteur de manga publié dans un hebdomadaire a fait un petit peu ressurgir ses problèmes de santé. Il a dû plus ou moins s'arrêter et il a eu surtout un gros contre-coup une fois qu'il a terminé son manga.
Et actuellement, est-ce que tu sais ce qu'il fait ou il est toujours sur... en publication sur un nouveau manga?
À ma connaissance, il ne publie rien depuis un bon petit moment. Il avait travaillé sur la suite d'Orange Road. Il s'est impliqué aussi dans la réédition de la série en édition collector au Japon. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas suivre aujourd'hui un rythme tel qu'était un manga d'Orange Road. Après, il pourrait très bien faire comme d'autres auteurs aujourd'hui des années 80 qui vont publier dans des magazines un peu plus adultes et à un rythme moins soutenu. Mais même ça, a priori, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est quand même dépendant. Il privilégie sa santé avant de continuer de raconter des histoires.
Oui, d'ailleurs, il a 60 ans, il est de 1958. Donc oui, effectivement, vaut mieux qu'il préserve sa santé.
Oui, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup plus vieux et qui continuent de faire plein de choses. Donc ça, encore, ça, il pourrait y avoir d'autres exemples. Il y a des mangaka qui sont morts en continuant de dessiner. On avait Monkey Punch qui est parti il n'y a pas très longtemps. Il continuait de dessiner, lui. Après, ça dépend aussi de la personnalité et des capacités de chacun. Nous avons eu dans un premier temps l'adaptation animée et quelques années plus tard le manga chez J'ai lu en 1998 pour sa première édition et en 2011 chez Tonkam pour sa seconde édition. As-tu des infos sur comment est né le manga de Kimagure Orange Road et quelle signification a ce titre ? Alors c'est toujours le côté orange acidulé qui est en référence à l'adolescence, c'est les premiers émois, c'est des choses qui sont à la fois douces et puis qui peuvent faire souffrir aussi les premières peines de cœur. Donc je sais que la couleur orange et le fruit de l'orange évoque un petit peu toutes les mésaventures qu'on connaît quand on arrive à l'adolescence. Après, il me semble qu'il y avait quand même aussi une signification sur le côté Kimagure, qui veut dire capricieux.
Tout à fait.
Alors, le titre international, c'est Capricious Orange Road.
Tout à fait.
J'avoue que ça m'a... Je ne me souviens plus très bien de tous ces détails-là.
Donc le manga compte 18 tomes aussi bien en France comme au Japon, donc on a eu l'intégralité du manga aussi bien chez J'ai lu, je crois, ils ont sorti tous les tomes.
Oui, bien sûr, c'était parmi leurs premiers titres et c'était encore une époque où ils allaient jusqu'au bout des séries, d'autant que celle-ci, non seulement elle n'était pas très très longue, 18 tomes ça peut paraître long, mais c'est beaucoup moins long que des Hokuto no Ken ou des City Hunter qui publiaient en même temps. Et puis oui, on était dans le plein succès du manga, donc ça n'a eu aucun mal à aller jusqu'au bout.
Donc pour les auditeurs, donc la première publication a date de 1984 et dans le Weekly Shonen Jump, comme on l'a dit précédemment, et jusqu'en 1987 pour le manga. Je rappelle que vous aviez fait un dossier, voire même sur les chansons de KOR dans Anime Land numéro 2, 7 et 8. Malheureusement, je ne les ai pas en ma possession parce que c'est les premiers numéros.
Ils sont très vieux, hein, ceux-là.
Oui. Que peux-tu nous dire sur ces, sur ça? Parce que moi, je ne les ai pas vus, donc.
Bah, Anime Land est né en 1991 et on est vraiment dans la pleine époque où arrive déjà le dessin animé qui était, je crois, genre, je ne sais plus à quelle année il est arrivé, peut-être un tout petit peu avant, mais en tout cas on est dans cette époque-là où ce qui a sur la 5 dans Youpi, l'école est finie et on est vraiment dans cette époque où Anime Land est né d'un groupe de gens qui voyaient tout ce qui passait à la télé et surtout qui avaient été nourris par des choses incroyables. Alors, il y a eu la première génération Goldorak Candy et ensuite la période Club Dorothée, la 5. Et là, on est dans cette période-là. On découvre toutes ces séries, on les trouve fantastiques, on adore les BO, on commence à s'acheter les musiques, parce qu'on avait trouvé une boutique sur Paris où on pouvait arriver à importer les CD. Évidemment, il n'y avait pas Internet, il faut rappeler encore à cette époque-là. Donc, pour écouter des musiques en japonais, on connaissait juste, nous, le générique français de Claude Lombard, mais on adorait les musiques. Et voilà. Et moi, je sais que Orange Road, il est dans mes 5 premiers CD que j'ai réussi à commander de France en import du Japon, qui m'ont coûté un bras. Ça coûtait 320 francs à l'époque, un CD, c'est-à-dire à peu près 60 euros. Et on était étudiants, on n'avait pas forcément beaucoup de sous. Donc, mais ces musiques, elles étaient tellement belles, les chansons, les génériques, ça fait partie des choses qu'on a... C'est vraiment les premières BO qu'on s'est procurées. Et quand Anime Land est né, et comme le but d'Anime Land, c'était d'aller au-delà justement du peu d'informations qu'on avait sur ces séries, de dire d'où elles venaient, d'expliquer que ça venait d'un manga et de parler aussi de la richesse de la création de ces séries, forcément les CD, oui, ont tout de suite eu une grande part, on en a parlé en long et en large, et effectivement on a même fait des articles entiers pour expliquer ce que c'était que ces chansons.
D'accord, et d'ailleurs tu en avais passé du temps du Super Lustig, la radio que j'ai connue, j'ai eu la chance de connaître.
Exactement.
Est-ce que les musiques originales de Kimagure Orange Road étaient souvent plébiscitées par les auditeurs?
Oui, énormément. Alors, à la fois parce que c'est parmi les premières, moi, les premiers CD que j'ai eus, tout de suite, je les ai partagés en les diffusant justement dans l'émission que je faisais à l'époque sur la radio. Et effectivement, cette émission avait pour but de faire découvrir aussi des génériques japonais. Donc, j'ai diffusé Saint Seiya, Creamy, Orange Road. C'était parmi effectivement les premiers que j'avais. Donc, forcément, et puis encore une fois, la série, on est dans le plein du succès. Oui. Elle a été diffusée. Et effectivement, à partir de 90, mais elle a souvent été rediffusée aussi dans les années qui ont suivi. Donc, c'était une série qui était très appréciée. Et forcément, les génériques aussi, qui étaient vraiment de grande qualité, étaient très souvent demandés, que ce soit dans mon émission ou dans les fameux disques à la demande.
Oui, les fameux DAD. Donc, en revenons un peu au manga, à propos des personnages, et notamment de Madoka Ayukawa. Est-ce qu'elle est devenue vite un personnage culte par le biais du manga ou par son adaptation animée?
D'abord par le dessin animé, parce que, comme on le disait, on a connu en France d'abord le dessin animé. Le manga, il est arrivé qu'en 1998, mais Madoka Ayukawa, on l'a mis en couverture dans Anime Land numéro 7, si je me souviens bien. Et quand on a lancé les premiers votes avec l'animé Grand Prix qu'organisait Anime Land, ça a été le premier personnage à obtenir la première place dans la catégorie des personnages préférés des lecteurs. Donc voilà, déjà on pouvait se rendre compte que, alors que le manga n'était pas encore publié, donc c'était vraiment le personnage du dessin animé qui plaisait déjà beaucoup, son caractère, et avec le recul c'est pas étonnant, elle avait déjà eu du succès au Japon, et puis les gens préfèrent toujours les personnages un petit peu rebelles, un petit peu différents que les personnages tout lisses ou trop gnangnan.
série TV débarque en France sous le nom de Max et compagnie en 1990 sur la chaîne La 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Elle compte 48 épisodes, mais avant la série TV que nous connaissons, il y a eu un épisode pilote en 1985 durant le Festival Jump selon ce que j'ai lu. Que peux-tu nous dire sur cette première adaptation du manga ?
Oui, je l'ai vu cet épisode pilote. Alors, il se passe pas avant en fait. L'épisode pilote, c'est un épisode qui aurait pu être en plein milieu de la série et il porte bien son nom. C'est un épisode pour tester un petit peu à quoi pourrait ressembler une adaptation de ce manga. À cette époque-là, le Jump qui adapte ses plus grands succès à la télévision fait de temps en temps ce genre de choses. Ces épisodes pilotes, ils vont être diffusés, comme tu l'as dit, à la Jump Festa. C'est des événements dédiés aux séries du Jump et c'est l'occasion de découvrir en exclusivité des fois une adaptation inédite à travers un épisode tel qu'il pourrait l'être. Et suivant la réaction des gens et le retour, et bien ensuite ils vont lancer la série télévisée. C'est ce qui explique parfois, et c'est le cas ici, que c'est pas tout à fait la même équipe qui travaille sur le pilote et la série. Alors là, globalement, on a déjà Akemi Takada sur ce pilote, on a déjà, je crois que c'est bien le studio Pierrot qui a fait aussi ce pilote.
Par contre, j'allais te poser la question justement, oui. Si c'était bien le studio Pierrot qui était dans cette première
adaptation. Le gros changement, c'est les musiques, en fait. C'est pas encore Shiro Sagisu qui a fait ces musiques, mais un autre compositeur dont le nom m'échappe et qui était beaucoup moins renommé. Enfin, sachant que au moment où il fait Orange Road, Shiro Sagisu n'est pas spécialement renommé. Je crois que c'est seulement sa deuxième BO pour une série télé.
Donc, justement, on en parlait juste avant. La deuxième adaptation est faite donc par le studio Pierrot en 87. On leur doit donc GTO, But pour Uki, encore Naruto plus récemment. Et nous devons le chara-design donc à Akemi Takada. Olivier, est-ce que c'est dû à son chara-design que la série a remporté un succès ou c'est plus le manga ?
C'est un petit peu les deux. Le manga, c'est quand même une histoire et c'est des personnages qui ont été créés, qui ont des caractères, qui ont leur personnalité. Et ça, on ne peut pas l'enlever à l'auteur du manga. Après, quand on regarde à quoi ressemble le manga, comme on le disait, c'était... Bon, même si c'était pas une première œuvre, c'était un auteur qui était encore jeune, et il est clair que pour le dire franchement, c'est pas aussi bien dessiné que le dessin animé. Et Akemi Takada, à l'inverse, est une personne extrêmement confirmée quand elle travaille sur la série. Et elle a déjà fait ses preuves. Elle a été révélée notamment par la série Urusei Yatsura, la Mu. Oui. Elle a déjà fait Krimi, qui a fait d'elle une star. Et elle a déjà une grande expérience du chara designer. Et elle est vraiment, c'est une des chara-designers les plus en vogue des années 80. Elle a fait aussi Maison et Coucou un an avant Orange Road. Donc voilà, on est vraiment sur une pointure du chara-design qui s'inscrit, qui a apporté son style et qui est exactement dans le style de ce que les gens aiment dans les années 80. Donc elle apporte un plus indéniable à la série en actualisant le style de Izumi Matsumoto, en lui donnant, alors à la fois en faisant son travail de chara designer, en l'adaptant pour que ça puisse être animé, puisque c'est au départ le travail du chara designer, mais aussi en apportant un petit peu, j'ai envie de comparer à Shingo Araki, qui a apporté son style et qui a sublimé Saint Seiya de Masamiru, par rapport au trait de Masami Kurumada qui était un petit peu daté. Et bien là, on est aussi dans ce cas de figure où vraiment, ça va sublimer le dessin et donner encore plus de corps à tous ces personnages.
Donc, en parlant de Akemi Takada, tu as eu la chance de la rencontrer, je pense.
Oui.
Oui, donc je crois qu'elle est venue l'année dernière à Japan Tour.
Elle est venue récemment à Japan Tour Festival. Et après, elle est venue. Moi, je l'ai rencontrée il y a très longtemps. C'était quand elle est venue la première fois en France au Festival Cartooniste à Toulon. Mais par la suite, elle est venue plusieurs fois. Je crois qu'elle est venue à Japan Expo aussi. Elle a quand même fait plusieurs séjours en France.
Et qu'est-ce qu'elle pense de la série ? Est-ce que c'est une de ses œuvres où elle a bien aimé travailler dessus ?
Ça fait partie des œuvres qui ont vraiment marqué sa carrière. Il suffit de feuilleter ses artbooks. Dans ses artbooks, il y a énormément d'illustrations de Kimagure Orange Road. Elle a continué de travailler sur la série en vieillissant les personnages. À chaque fois qu'il y a une réédition, elle a fait des nouvelles illustrations. Je pense que ça fait vraiment partie des séries iconiques du travail d'Akemi Takada.
Donc, continuons toujours avec l'animé et le casting vocal japonais, notamment pour les deux personnages principaux comme Furuya Toru, qui fait Yamcha pour Dragon Ball, mais il fait donc Kyosuke Kasuga dans Kimangore Orange Road et Tsuru Illumi pour Madoka Ayukawa. À propos de Tsuru Illumi, elle nous a quitté en 2017. Que peut-on dire sur sa performance sur le personnage de Madoka?
Ben, comme d'habitude, les Japonais réussissent un casting sans faute, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est quasiment tout le temps. Ils apportent vraiment un grand soin à trouver les voix qui collent parfaitement au personnage. Et c'est vrai que Hiromi Tsumu, ben, c'est aussi, c'est Bulma. C'est marrant parce que on pense pas forcément à assembler ces deux personnages. Mais, elle a cette sensibilité, ce charme, cette délicatesse et cette personnalité. C'est finalement peut-être ce qui réunit ces deux personnages, qui sont des personnages avec un caractère assez fort, des filles qui s'affirment et une douceur, qui savent séduire aussi. Et c'est parfaitement le personnage d'Ayukawa. Et Toru Furuya, toujours en jeune premier, un peu timide, hésitant, tout comme quand il avait commencé sa carrière je crois que c'est lui qui doublait Amuro-Ray, le héros de Gundam. C'est aussi un très bon choix et une pointure dans ce type de rôle.
Oui, il a fait donc Yamcha, comme j'ai dit. Il est surtout aussi Seiya.
Seiya, forcément.
Saint Seiya. Donc oui, du casting premium, qu'on pourrait le dire. Mais notamment donc en France, là on va passer au casting vocal français. C'est Dorothée Gemma qui est donc Rachel Green dans Friends, pour ceux qui situent un peu la voix, qui prête sa voix à Sabrina, donc son nom français dans la série, et Eric Echeverry à Max Soakiyosuke en japonais. Les as-tu déjà eu en interview et que pense-t-il de la série TV Max et compagnie?
Je les ai tous interviewés, y compris Joël Guigui qui faisait Pamela, et puis Amélie Morin qui faisait une des deux sœurs de Max. Alors, on va être honnête, comme beaucoup de comédiens qui ont travaillé dans les années 80, ils n'ont pas forcément gardé un souvenir particulier de cette série. Non pas qu'ils l'ont pas aimé, mais c'est une époque où ils ont fait énormément de doublage. Au moment où arrive la 5, les besoins sont immenses, puisqu'il faut alimenter les chaînes de TF1. La 5 qui arrive, ce ne sont que des séries qui viennent de l'étranger, donc il y a beaucoup, beaucoup de doublage. Et les studios de doublage, il n'y en a pas tant que ça à l'époque. Donc, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui finissent des fois à 22 heures, voire très tard, et qui enchaînent des journées à faire des lignes, à doubler des dessins animés, des séries live. Donc, même s'il y a eu 48 épisodes d'Orange Road, c'est quelque chose qui a été doublé assez vite et qui leur a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà. Après, comme ils disent souvent, ils y ont mis leur cœur, ils ont essayé de faire ça du mieux qu'ils ont pu. Et voilà, c'était aussi ce qui faisait la force de ces doublages de l'époque. Ils étaient assurés par des comédiens qui étaient très très professionnels et qui arrivaient à saisir parfaitement leurs personnages, même si là aussi les méthodes à l'époque faisaient qu'on regardait très très peu la VO, c'était souvent doublé au moment où on découvrait le texte. Mais voilà, malgré tout, le travail a été fait. Et même si on peut aujourd'hui, avec le recul, voir qu'il y a eu des erreurs, des fois dans l'adaptation, on peut critiquer l'adaptation, franciser tous les noms, mais ça, c'était les pratiques qui étaient. C'est comme ça qu'on faisait sur tous les dessins animés à l'époque. Et je ne parle pas des censures, qui, encore une fois, là aussi, ne relèvent pas des comédiens, mais plus de la chaîne.
Ce n'est pas eux, il faut le préciser.
Voilà. Mais malgré tous ces défauts, le doublage est un doublage, pour moi, qui est réussi. Et qui a aussi contribué au succès du dessin animé en France.
D'ailleurs, par la suite, il y a eu donc les OAV et les films qui sont sortis nous en France. Est-ce qu'ils ont repris une partie du casting?
Il y a eu deux salves, parce que les droits étaient partagés. D'abord, il y avait AB qui avait le film et les deux premières OVA. Alors eux, ils ont repris une partie du casting parce qu'ils l'ont tout simplement fait doubler dans le même studio, mais simplement tout le monde n'était pas disponible. Donc il y avait Dorothée Gemma, mais je crois qu'il n'y a pas Joël Guigui, si je me souviens bien. Et ensuite, il y a Kazé qui avait acquis le reste, c'est-à-dire 6 autres OAV, mais qui avait fait son doublage de son côté. Alors ils avaient fait le choix de prendre quelques voix principales, notamment Joël Guigui et Dorothée Gemma. Eric Echeverry, je me souviens plus s'il était de la partie. En gros, il y a eu une espèce de mélange entre, effectivement, tout n'est pas doublé de la même façon suivant les droits de l'époque. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie des aléas où c'est pas toujours facile de maîtriser la chaîne des droits.
Donc en France, nous avons eu droit à un seul générique interprété par Claude Lombard. En Italie, idem avec Cristina D'Avena. Je ne citerai pas le nom en italien parce que...
Et Quasi Magia. Voilà. Mais aussi... C'est la même chanson, hein, c'est la même
Exactement,
chanson.
C'est le même générique, tout à fait. Oui, parce que j'ai pu avoir, j'ai pu rencontrer Claude Lombard, j'ai pu faire son interview à le moment de quelques semaines avant son concert. Il avait fait en 2017, si je ne me trompe pas. Donc oui, on en,
oui,
avait
c'est
parlé,
ça.
On en a parlé. Donc oui, c'est les mêmes musiques, que ça soit aussi bien en France qu'en Italie. Mais au Japon, il y a eu 3 openings, 3 endings. Je ne compte pas toutes les chansons sorties autour de la licence. Mais ma question, Olivier, c'est lequel préfères-tu parmi ces génériques ?
C'est horrible de répondre à ça parce que j'ai toujours un attachement avec les Français. En plus, je connais l'interprète. Et puis j'ai aussi, comme tout le monde, c'est les premiers que j'ai connus. Après, voilà, les génériques japonais ont toujours tendance à être un... malheureusement plus travaillé que les génériques français. Non pas qu'ils n'étaient pas bien travaillés les génériques français, mais voilà, les Japonais, pour eux, ils travaillent ça comme de la variété, et c'est des artistes, il y a plus de d'ailleurs, il y en a 3 différents, avec des personnalités différentes. Et voilà, mais sur les génériques japonais, donc j'irais plutôt sur un générique japonais, et Night of Summerside, qui reste toujours mon préféré. Même si ce pauvre chanteur n'a pas fait grand-chose d'autre qu'Orange Road. Ah. Mais d'ailleurs, enfin, tous les interprètes d'Orange Road n'ont pas eu une grande, grande carrière. Celui qui chante Orange Mystery, lui aussi, il a chanté juste un autre titre. Quant à Kanako Wada, elle a eu un petit peu une carrière solo un peu plus importante. Mais voilà, elle n'est pas restée très, très longtemps dans le circuit de la chanson. Thank you.
Donc la licence a généré pas mal de produits dérivés. Donc alors deux films si je me trompe pas, 8 OVA, romans. Que peux-tu dire globalement sur les films et OVA ?
Les films, il faut absolument voir le premier film qui est la conclusion, une très très belle conclusion à la série, à l'histoire. Il est terrible ce film, mais c'est vrai que on a rarement une histoire qui finit comme ça de manière aussi magistrale avec une vraie fin, avec qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs cette fin, mais qui conclut la chose de manière très belle. Le deuxième film pour moi est plus anecdotique, d'ailleurs il a été produit assez longtemps après, vers 1995 ou 96 si je me souviens bien, ou 97 même, et on n'a plus le chara-designer d'Akemi Takada, oui. Et justement on avait une telle fin dans le premier film que ça revient un peu, je trouve ça essaye de reconstruire quelque chose, mais je trouve pas très intéressant. Le roman est plutôt anecdotique aussi. Soyons honnêtes, cette œuvre, elle se suffit à elle-même et la vraie histoire, elle est sur le manga ou alors sur les 48 épisodes des premiers films. Après, le reste, pour moi, c'est un petit peu gadget et ça ne fait que ça fait, ça essaye de prolonger un peu l'histoire, mais sans vraiment arriver à la hauteur de ce qui avait été proposé avant.
Actuellement au Japon, est-ce que la licence est toujours vivace ou alors elle est complètement enterrée et, voilà, elle a fait son temps quoi. Et
encore... Je dirais pas qu'elle est enterrée, mais disons qu'elle est dans le cadre d'une licence nostalgique qui est terminée, qui révolue et qui ne revit que lorsqu'on réédite ce qui a été fait à l'époque. Voilà, j'ai entendu parler d'une sortie en Blu-ray par exemple. Voilà, ça va du coup remettre un peu la série sur le devant de la scène et peut-être qu'à cette occasion-là, ils referont quelques goodies ou quelques un peu des posters, des choses pour ou rééditer un peu d'autres choses. Mais non, il n'y a plus rien qui est vraiment. Les dernières choses qui sont sorties, c'est quelques romans de Shin Kimagure Orange Road qui sont sortis au début des années 2000. Mais voilà, pour moi, il n'y a plus grand-chose à raconter dessus. Hein. C'est une histoire d'adolescence en plus. Alors, c'est difficile parce qu'on ne va pas toucher les adolescents d'aujourd'hui avec cette histoire qui est quand même ancrée dans les années 80. Et puis, les gens qui l'ont vraiment lu, on est des adultes aujourd'hui, donc on ne peut plus vibrer de la même manière que lorsqu'on découvre en étant adolescent une histoire d'adolescence.
Oui, et puis d'ailleurs, la voix de Madoka n'est plus parmi nous, comme dit quelques minutes avant. Oui, forcément, je pense. Je vois personne d'autre sur le personnage de Madoka. Donc, voilà. Juste voir si la tendance était encore un peu vivace au Japon. Mais voilà.
Après, on n'est jamais à l'abri de surprises. Oui. Il y a toujours un effet revival ou de faire un remake qui se passerait aujourd'hui. Pourquoi pas au Japon, ils rebootent énormément de séries. Donc, ça ne me surprendrait pas un jour qu'il y ait une idée pareille. Je serais juste un peu surpris. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Encore une fois, c'est un peu bancal ce genre de choses parce que les premiers concernés, ils regarderont ça avec leur œil d'adulte. Donc, du coup, le regard d'adulte, donc ça sera pas forcément pareil. Du coup, il y a des grandes chances qu'ils trouvent ça moins bien, du coup. Et puis, du coup, les plus jeunes, est-ce qu'ils ne chercheront pas plus une histoire originale que quel intérêt d'aller voir quelque chose qui a déjà été fait avant.
Et à ta connaissance, est-ce qu'ils ont osé une adaptation live? Ouais, personnellement, je ne sais pas. Donc...
Écoute, je ne pense pas. Hein. Pourtant, ça pourrait s'y prêter. Et c'est vrai que là aussi, dans les reboots aujourd'hui, beaucoup de reboots aussi live, de choses qui n'auraient pas été possibles de faire. Alors, Orange Road, ça reste de la comédie et ça se passe dans un monde qui est tout à fait équivalent au nôtre. La seule fantaisie, c'est les pouvoirs de télékinésie de cette famille. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait faire ça assez facilement avec des effets. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de beaucoup d'effets spéciaux pour faire ça. Non, ça n'a pas encore germé dans la tête des producteurs.
On a eu Video Girl High. Il y a eu une première adaptation dans les années 90. Là, ils ont refait un drama il n'y a pas si longtemps, en fait.
Exact.
Donc, tout est possible. Hein. Voilà.
Si c'est possible. ça ne me surprendrait pas, mais j'espère qu'ils n'auront pas cette bonne idée.
D'accord. Et on en parlait juste avant, oui, par rapport à la licence au Japon. Donc oui, penses-tu qu'une nouvelle édition en Blu-ray, vu qu'elle est disponible au Japon, serait sortirait en France de la série TV.
Alors j'ai aucune information là-dessus, mais pour moi ça paraît tout à fait envisageable. Le problème du Blu-ray, c'est que ça.
Est-ce que ça se vendrait?
Voilà, c'est toujours la question en fait. Ressortir, il y a déjà une très belle édition qui existe en DVD, qui est très complète. Quel intérêt de faire du Blu-ray? La haute définition, mais faire du Blu-ray, ça coûte cher à faire, ça coûte plus cher à vendre. Donc, est-ce que les gens sont prêts à racheter en Blu-ray une série comme ça? Aujourd'hui, seules les séries qui ont vraiment un gros potentiel un éditeur peut se lancer, prendre ce risque de ressortir en Blu-ray. Mais ça me semble pas inenvisageable. Alors pour la petite histoire sur Crunchyroll, Crunchyroll a rajouté justement Kimagure Orange Road, alors pas en France, je vous le dis tout de suite, mais aux États-Unis, la série. Je sais pas encore si elle est en HD ou pas, mais je pense effectivement c'est tout à fait possible. À défaut de sortir sur un Blu-ray, ça peut toujours demain être disponible en HD sur un service de vidéo à la demande. Ça aussi, c'est des options qui peuvent être plus facilement mise en œuvre parce que ça coûte moins cher, du coup il n'y a pas à fabriquer un produit. Mais honnêtement, je pense quand même que cette série a encore du potentiel pour ressortir un jour en Blu-ray. Messieurs les éditeurs, si vous nous écoutez, à vous de jouer.
Merci du message. Eh bien, on arrive à la fin de ce RetroTag spécial Kimagure Orange Road. Il y aurait tellement encore à dire autour de la licence KOR. Je te remercie Olivier pour ta participation et de m'avoir accordé de ton temps. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, oui, tu es consultant pour Crunchyroll, mais que fais-tu d'autre?
Si on veut parler musique, je vous invite à écouter mon podcast Anisong, où je parle chaque semaine d'un générique de ces années-là, justement des années 70, 80, 90. L'idée étant justement de partir sur un générique qui est relativement connu et de partir à la découverte de l'interprète et d'un deuxième titre, des fois souvent plus anecdotique ou moins connu de ce même interprète. Voilà. Et j'en ai déjà consacré quelques-uns à Orange Road, justement sur je crois que j'ai fait les trois génériques de début déjà. Je ne pourrais pas faire le générique de fin de Kanako Wada parce que elle n'a rien chanté d'autre malheureusement que Orange Road, et comme la règle de ce podcast c'est d'avoir au moins une deuxième chanson à passer qui soit différente de la série où elle est, elle fait partie de ces chanteurs qui n'ont qu'un seul registre d'anisong. Donc il y en a beaucoup des chansons d'Orange Road. Je suis en train d'explorer aussi des chanteurs de la bande originale aussi qui sont tout à fait intéressants. Si ça vous dit, pour prolonger l'expérience après ce podcast sur les musiques et tout cet univers, n'hésitez pas.
Donc sur anisong.fr, c'est ça le site internet?
Anisong.fr, exactement.
On vous souhaite une bonne soirée. Merci et merci encore Olivier.
À très bientôt, merci pour l'invitation.
De pouvoirs étranges, ils peuvent comme les anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, avec eux ça marche toujours. Attention magie, attention magie. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme des anges se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange.